Mes chers frères et sœurs, ce matin, dans le partage que je vous propose, je voudrais revenir sur certains points, notamment sur les conceptions que nous pouvons avoir sur le cours de la vie, sur les maladies, sur les événements heureux ou malheureux qui peuvent arriver aux uns et aux autres, et regarder ensemble tout cela à l'éclairage, à la lumière de la Bible. Donc le titre que je vous propose, c'est « La vie du chrétien, vie de miracle ou vie ordinaire ?» Je voudrais commencer par la lecture d'un personnage qui a écrit sur la question, qui s'appelle l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1, il est écrit ceci. C'est l'Ecclésiaste qui parle. « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté ? Voyez, la réflexion qu'on se fait aujourd'hui, par rapport au coronavirus, par exemple, mais aussi par rapport à, ça peut être tout à fait par rapport à d'autres maladies, bien c'est, ben finalement, on est chrétien, mais on est touché aussi. Ben voyez, l'Ecclésiaste, lui aussi, il a fait le même constat. En fait, qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon, on est touché par les mêmes choses. Alors, ceux qui claironnent, que bah ouais, moi parce que je suis chrétien, ça peut pas m'arriver, je jouis de promesses de Dieu et tout ça, eh bien il faut se remettre en place, il faut se remettre à notre place, se revêtir d'humilité. Ben oui, c'est écrit, tout arrive également à tous. Alors c'est sûr qu'à la fin du compte, il y a quand même une énorme différence, mais en ce qui concerne la vie terrestre, il ne faut pas se voiler la face. Nous aussi, nous traversons des moments difficiles dans la vie. Nous traversons, nous aussi, chrétiens, des épreuves. Et je voudrais continuer avec une discussion que les disciples ont eue avec Jésus lui-même. Cette discussion, elle se trouve dans Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, c'est-à-dire Jésus. Alors, si on contextualise un peu, hein, eh bien, voilà, et si ça arrivait aujourd'hui, ben voilà, il y a eu les médias qui ont parlé d'un contexte horrible de Pilate qui est arrivé et qui a commis des meurtres et qui a mélangé le sang de certains Galiléens avec le sang des sacrifices qu'ils étaient en train de faire. Et c'est horrible, cette situation. Et ils apportent ça à Jésus. Et nous, on pourrait très bien amener à Jésus la situation. Ben, Jésus, non mais tu te rends compte, il y a des chrétiens qui ont été touchés, qui ont attrapé le coronavirus, il y en a qui sont morts quand même, qu'est-ce que tu réponds à ça? Et Jésus, il répond, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Et Jésus, il continue, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et Jésus renchérit même avec une autre situation qui ferait la une des médias aussi, hein, avec cette fameuse tour. Mais au verset 4, toujours dans Luc 13, ou bien c'est Jésus qui renchérit, ou bien c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, voyez, on a la réponse de Jésus qui est que ça rejoint un peu ce que l'Ecclésiaste dit, qu'en fait, tout arrive également à tous. Et c'est pas parce qu'on est plus ou moins pécheur que quelque chose nous arrive, qu'un événement fâcheux nous arrive. Ça nous arrive, ben, parce que ça nous arrive. Et on n'y peut rien, et on ne peut pas accuser Dieu. Mais que montre Dieu dans sa réponse? Qu'est-ce qui est important en fait? Jésus n'attire pas tellement notre attention sur la façon dramatique avec laquelle ces gens sont morts. Il attire beaucoup plus notre attention sur la repentance. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En fait, Jésus, la façon dont les gens sont morts, ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est la repentance. Et donc là, c'est le fait que les gens, ils sont partis dans la mort sans être passés par la repentance. Et ça, voyez, c'est ce qui a l'air important pour Jésus. Donc Jésus ne relève pas vraiment la façon avec laquelle les gens concernés sont morts, mais il attire notre attention sur le fait que ces gens-là ne se sont pas repentis et que ben, si on ne se rend pas, si nous on ne se repent pas, on mourra également aussi, quelle que soit la façon avec laquelle on meurt. Donc les circonstances les événements, les aléas de la vie que des gens peuvent traverser, la façon avec laquelle ils vont terminer leur course ici-bas n'a pas l'air vraiment importante aux yeux de Jésus. Ce qui est important aux yeux de Jésus, c'est la repentance ou pas de ces personnes. Alors, je voudrais qu'on continue dans une histoire quand même qui a attiré bien mon attention aussi, et on va avancer dans notre cheminement, dans nos réflexions. Regardons un peu la réponse que Jésus a faite au sujet d'une autre histoire. Vous savez, l'histoire de l'aveugle né. Ça se trouve dans Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors si on regarde dès le début de cette histoire, Jésus, dans l'œuvre qu'il fait, au travers de cette guérison qu'il va faire, parce que lui, il sait qu'il va le faire, il commence déjà à bousculer la conception de ses disciples. Parce que c'est dit pour les disciples, il y a pas vraiment d'alternative. C'est soit lui, cet aveugle, soit ses parents qui ont péché. C'est impossible qu'il y ait autre chose. La maladie, c'est forcément à cause du péché. Et cette conception-là, les disciples l'ont profondément ancré en eux. Et si je nous interrogeais, chacun de nous, qu'est-ce qu'on pense à l'intérieur de nous par rapport à la maladie? Est-ce qu'il y en a encore parmi nous qui pensent que, bah ouais, quand il y a de la maladie, il y a forcément eu du péché? Ça peut, mais ce n'est pas forcément. Et là, dans cet exemple ici, Jésus bouscule bien cette conception. La maladie n'est pas forcément à cause du péché. Et dans ces œuvres que Jésus va faire au travers de cette maladie, eh bien, on voit déjà une première étape. C'est le bousculement de la conception des disciples. Alors, on va continuer. Alors, Jésus, après cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Moi, je crois aussi qu'il a un peu bousculé cet aveugle. Mettez-vous un peu à sa place. Jésus crache par terre, il fait de la boue, il mélange la terre, il fait de la boue, barque. Hein? Vous diriez pas barque, de la boue avec la salive, et puis bah il met ça sur les yeux, bah ça bouscule aussi, zut. C'est pas tellement hygiénique. Mais Jésus, bah oui, il a aussi certainement bousculé des conceptions. Ce qu'il faisait était pur et il avait vraiment un objectif. Alors je sais, j'ai déjà entendu hein, une prédication là-dessus. Jésus, ça nous fait penser à la terre, qu'il a créé l'homme de la poussière de la terre et qu'en fait, la vue n'avait pas été créée au moment de la naissance de cet homme. Et donc Jésus a créé la vue de cet homme avec la poussière. Et voilà, donc Jésus, il a aussi bousculé certainement des choses dans la vie de cet homme, mais c'est pas terminé du tout, hein. Et donc ensuite, cet homme, il a obéi. Il a obéi à Jésus et il est allé au réservoir de Siloé. Et quand il s'est lavé les yeux pour retirer la boue, le miracle s'est accompli. Il s'est mis à voir. Alors ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas ça celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ici, dans la suite de cette narration, ben, on peut voir qu'en fait cet homme qui a vécu un miracle, il ne voit pas Jésus comme quelqu'un de super, hein, comme un super-héros. Il se contente de dire à la question, bah, qui t'a fait ça? Ben, il dit, bon, c'est l'homme, un homme qu'on appelle Jésus. Voilà ce qu'il a fait. J'y suis allé au réservoir de Siloé, me suis lavé les yeux, et puis depuis je vois. Voilà. Sa connaissance de Jésus se limitait à un homme. On va continuer et on va voir ensemble comment l'œuvre de Dieu, au travers de cette guérison, va bousculer beaucoup de choses et va amener cet homme à beaucoup évoluer dans sa conception de Dieu. Ils emmenèrent vers lui les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. On continue. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, bon, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, bah, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. La suite de l'œuvre de Dieu, c'est que ben, il provoque des divisions, il provoque des interrogations au milieu même des pharisiens. Parce que les pharisiens, ben, ils étaient quand même assez têtus, assez rigides. Et là, la première chose que certains voient, c'est que Jésus, il ne peut pas être de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Donc Jésus, il a bousculé aussi leur conception. Et il y a une partie qui continuait de dire que ben, ce n'était pas possible, il ne pouvait pas être de Dieu, et l'autre qui voit l'autre côté de la face de ce miracle, qui fait abstraction du fait que si Jésus a fait de la boue un jour de sabbat, mais qui voit que ben, quand même, il y avait un homme qui était aveugle, et maintenant il le voit. Donc forcément, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, c'est pas possible autrement. Et il y a eu une division. Et moi, ça me fait penser à un autre verset qui dit que ben, Jésus, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu apporter aussi la division. Et là, on voit cette œuvre. merveilleuse de Jésus qui vient complètement chambouler les conceptions, qui vient complètement chambouler les représentations des uns et des autres. Et vous voyez, au travers de cette guérison, il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, qui remet en question des choses. Elle remet en question la conception des pharisiens. Et pour beaucoup d'eux, il fallait respecter la loi pour être de Dieu. Eh bien non, il y a ici quelqu'un, ce Jésus, qui est venu, qui n'a pas respecté forcément le sabbat, mais il a fait un miracle et il a fait son œuvre. Alors les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. La suite de l'œuvre de Dieu dans cette circonstance, c'est que les parents vont quelque part prendre conscience en verbalisant, ils vont prendre conscience qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille des pharisiens. Ils ont peur et ils vont devoir l'exprimer, cette peur. Voyez cette œuvre, l'œuvre que Jésus fait au travers de cette guérison, eh bien, il force les gens à dire les choses, à verbaliser les choses. Et cette verbalisation va faire évoluer. Alors, on ne sait pas comment ont évolué les parents dans la suite, mais en tout cas, l'aveugle né, l'ex-aveugle, eh bien, lui, on va voir qu'il va évoluer. On va continuer notre lecture. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Et l'aveugle répond, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et ils lui dirent, les pharisiens, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et là, l'aveugle, il commence à en avoir marre. Il leur répondit, « Mais je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir l'un de ses disciples ?» Et ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. » Cet homme, l'aveugle, leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Et là, il va commencer à avancer dans son cheminement. Vous voyez, toutes ces interactions, toutes ces conversations qui sont nées avec les pharisiens vont permettre à cet homme d'exprimer les choses. Et le fait de les exprimer, l'œuvre de Dieu va se construire dans sa vie, va se construire dans son cœur, et il va commencer à prendre conscience de la personne qui a touché ses yeux. Écoutez bien, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et là, les pharisiens sont furax. Et je n'ai pas précisé juste avant quand les pharisiens l'interrogent, bien, il dit que à ses yeux, Jésus, c'est un prophète. Parce que ça ne peut pas être autrement, ce n'est pas n'importe qui. Alors, voyez, il dit qu'au début, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Ensuite, il dit de lui que c'est un prophète. Ensuite, il va plus loin. Il dit que forcément, cet homme, il est dans la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu parce que Dieu l'exauce, parce qu'un miracle s'est produit au travers de lui. Alors, cette ce Jésus, forcément, il vient de Dieu. Et on va continuer. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, au verset 35. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et là, l'aveugle, l'ex-aveugle répond, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et là, l'aveugle répond, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Et ça, c'est merveilleux. Voyez tout ce cheminement dans la vie de cet homme. Toutes les interactions, toutes les conversations, toutes les oralisations qu'il a été amené à faire lui ont permis de progresser dans sa conception qu'il avait de Jésus. Au début, ce Jésus, c'était juste un homme qui s'appelait Jésus. Ensuite, il a pris conscience que c'était un prophète. Ensuite, il a pris conscience que cet homme, c'était forcément quelqu'un de Dieu, puisqu'il avait, il lui avait fait retrouver la vue. Et à la fin, quand Jésus s'adresse à lui, bien cet homme, il comprend que Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et là, il se met à l'adorer. Voyez donc, l'objectif de ce miracle n'a pas été seulement le côté miraculeux de la guérison, du recouvrement de la vue, de l'apparition, plutôt de la création de la vue dans cet homme, mais c'est bien plus encore. C'est la découverte personnelle d'un sauveur. Et en même temps, dans toutes ces interactions, Jésus, il a bousculé beaucoup de monde. Il a bousculé ses disciples dans leur conception de la maladie. Il a bousculé les parents en les amenant à prendre conscience qu'ils avaient quand même bien la trouille. Il a bousculé les pharisiens. Certains sont restés têtus et d'autres ont quand même lâché prise en reconnaissant que quand même Jésus, il venait sûrement de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est pour ce chapitre. On voit qu'en fait, bien Jésus, il a utilisé la maladie pour accomplir son œuvre. Et son œuvre est belle, elle est merveilleuse. Et on va continuer dans nos réflexions. Parce que il s'avère que nous avons une représentation des miracles. Nous avons une conception de ce que sont les miracles. Et nous aimons quelque part les choses grandioses. Mais Jésus n'a pas forcément la même vision que nous. Et je voudrais qu'on regarde un peu Jésus lui-même, parce que c'est quand même notre modèle. On va prendre l'exemple de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 12 au verset 23. Écoutons un peu ce que Jésus dit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pensez-vous qu'il parle de son arrivée à Jérusalem, de l'établissement du royaume comme certains juifs l'attendaient? Non, pas du tout. Il ne parle de rien d'autre que de sa crucifixion. Dites-moi un peu, quel roi de la terre parlerait ainsi? Du moment où il va être glorifié. Il n'y a aucun roi qui parlerait de cette façon-là. Dans la conception de tout le monde, être glorifié, c'est accéder au trône, c'est être acclamé, c'est être ovationné par tout le monde. Jésus, lui, il parle du moment où il va être glorifié, et c'est la pire des ignominies humaines. La crucifixion, c'est une mort où on est livré, c'est horrible, on est livré à la vue, on souffre, on meurt à petit feu, et Jésus, il a dit qu'il allait être glorifié. Donc, Jésus n'a pas la même conception que nous de ce qu'est la gloire. Pour nous, la gloire, c'est la réussite, c'est l'ovation, c'est la gloire au sens humain du terme. Jésus, lui, ne voit pas les choses de la même façon. Et on va se pencher sur Hébreux 11, par exemple. Vous savez, Hébreux 11, qui parle de ce long chapitre qui parle de la foi. On ne va pas prendre le temps de le lire hein, dans son ensemble, parce que ce serait trop long. Mais on aime beaucoup certains endroits d'Hébreux 11, où il est question de héros de la foi qui ont vécu des énormes miracles, de Daniel qui a fermé la gueule des lions, d'Élie qui a fait descendre le feu sur l'autel. Vous savez, il y a plein d'exemples brillants de Gédéon, des murailles de Jéricho qui sont tombées. Vous savez, tous ces miracles, toutes ces choses qui ont été accomplies par la foi. Ah, on les aime, ces histoires. Mais Hébreux 11 ne parle pas que de ces histoires-là. Il parle aussi de chrétiens qui font tout autant partie du corps de Christ et qui subissent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Il en est même qui ont été sciés, qui se sont trouvés dénués de tout, qui ont erré ça et là, eux dont le monde n'était pas digne. Et bien, aux yeux du Seigneur, c'est la même gloire. C'est la même gloire. Mais aux yeux des hommes, pour les uns, ça a l'air d'être une réussite, pour les autres, ça a l'air d'être un échec. Notre roi Jésus, humainement, c'est un échec de finir sur la croix. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est la gloire. Donc, notre vision de la gloire et de l'accomplissement d'une vie, elle n'est pas forcément la bonne. Notre vision n'est pas forcément la bonne. Et pourquoi elle est différente? Parce que nous sommes humains. Nous sommes naturellement attirés par ce qui ressemble à du succès. Mais ce n'est pas forcément ce succès-là qui est le succès que Dieu veut. Et il ne faut pas qu'on se dise que le succès, c'est forcément la guérison, c'est forcément la gloire. En fait, le succès, c'est ce que Dieu décide. Le succès, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Christ en nous. Et il s'avère que, en fait, la gloire de Dieu, elle se manifeste dans la gloire des hommes? Non, elle se manifeste dans la faiblesse. Si on regarde dans 1 Corinthiens 1, 26, il est écrit, 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles ou viles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, ce que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, la gloire de Dieu n'est pas du tout forcément ce que l'homme appelle la gloire. Le succès aux yeux de Dieu n'est pas forcément le succès que l'homme voit. Donc, traverser des moments de maladie et même en mourir n'est pas forcément un échec. Nos frères et nos sœurs qui ont été touchés par le coronavirus et qui en sont morts, ils n'ont pas vécu un échec. C'est l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie de cette façon-là, et si même nous ne le comprenons pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors certains s'en relèvent, d'autres non, mais c'est Dieu qui décide. Et ce qui ressemble à une réussite de ceux qui s'en sont sortis, c'est parce que c'était le chemin que Dieu voulait qu'ils suivent. Les uns s'en sont sortis d'une façon, les autres d'une autre, mais les uns comme les autres ont permis l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Dieu n'a fait aucune erreur. Alors vous me direz, à juste titre, et moi aussi je me le dis, zut alors, dans Marc 16, 17, il est quand même écrit, si les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas les réponses à tout. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui. J'en suis moi-même une preuve vivante. Et mon corps entier en est encore reconnaissant au Seigneur. Mes articulations, dans leur tout entière, louent Dieu de ce qu'elle n'est plus mal. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je sais que Dieu m'a guéri. Mais je suis bien conscient que cette puissance de guérison qui a œuvré de façon miraculeuse en moi ne réside pas en moi. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Mais moi, je ne détiens rien du tout. Je ne détiens rien de plus que l'un de mes frères ou l'une de mes sœurs qui est encore malade. D'ailleurs, si je détenais quelque chose, Timothée, pour qui on prie tous les jours, il aurait déjà guéri. Mais il n'est pas guéri. Nous avons décidé d'aller voir le médecin et un gastro-entérologue. Mais nous espérons en Dieu. Nous croyons que le Seigneur peut le guérir et nous avançons dans ce chemin en croyant que le Seigneur va faire quelque chose. Nous sommes sûrs que Dieu ne fait aucunement une erreur. Il fait, il accomplit sa volonté et il va se passer des choses. Nous allons comprendre des choses. Timothée va encore avancer. Mais en aucun cas, nous ne détenons quelque chose comme étant un acquis. Nous dépendons de Jésus-Christ et c'est avant tout son œuvre qui s'accomplit. Donc, si même il y a ce côté miraculeux qui existe au sein du peuple de Dieu, ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas le miracle. L'objectif, c'est avant tout l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Le miracle n'est pas une finalité en soi. D'ailleurs, je voudrais vous en parler de ce côté miraculeux, ce côté fantastique qui attire quand même. C'est vrai, nous sommes quand même attirés par celui-là. Mais attention, il y a du danger dans ce côté-là. Parce que, regardons un peu ce qui arrive dans Apocalypse 13, verset 11. Je vais vous le lire. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Écoutez bien. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » Voyez, les miracles, ce n'est pas forcément une caractéristique de Dieu. On voit là, à la fin des temps, le diable qui fera des miracles au travers de son prophète, au travers de cette bête qui sera l'antéchrist, l'antichrist. Et beaucoup de monde va suivre parce que c'est fascinant tout ça. Mais nous, nous ne marchons pas selon ce principe. Si Dieu fait des miracles, réjouissons-nous, mais ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une façon de nous éblouir. Ce qui doit nous éblouir et ce qui doit nous éblouir uniquement, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Vous savez, Dieu ne nous poussera jamais à nous sentir dans la peau d'un chrétien qui a acquis des dons surnaturels et qui a beaucoup de pouvoir. Non, être chrétien, ce n'est pas ça. Vous savez, ce que nous l'avons reçu malgré nous. Ce que nous l'avons reçu, nous qui sommes faibles. Et d'ailleurs, je voudrais revenir à ce que Paul nous avait partagé il y a quelque temps. Nous sommes des vases de terre. Nous ne sommes rien de plus que des vases de terre. Mais nous avons l'immense privilège de contenir à l'intérieur de ces vases de terre, de contenir l'Esprit de Dieu. Alors, nous devons marcher avec humilité et en aucun cas nous ne pouvons présumer de ce qui va nous arriver ou de ce qui ne peut pas nous arriver. Ne claironnons pas que telle ou telle chose ne peut pas nous arriver parce que nous croyons en Dieu. Non, ça ne nous a pas été promis. Dieu ne nous a pas promis que nous serions épargnés. Comme l'Ecclésiaste, comme je l'ai dit au début, dans l'Ecclésiaste, tout arrive également à tous. L'œuvre de Dieu s'accomplit au travers de la réussite apparente au niveau humain, mais aussi au travers de l'échec au niveau humain. L'apparente réussite ou l'apparent échec n'est pas la réussite ou l'échec selon Dieu. La réussite et l'échec humain peuvent tout à fait être tous les deux la réussite aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas forcément les mêmes lunettes que Dieu. Et en fait, il nous faut apprendre à connaître la personne de Christ pour revêtir ses lunettes et voir la réussite comme lui la voit. Voir avec ses yeux à lui. Et ce matin, eh bien, il faut qu'on médite là-dessus. Ne croyons pas que la réussite humaine est la réussite de Dieu. Non. Dieu nous demande de dépendre de lui. Il nous demande de rester humbles, cachés en lui. Et notre vie, elle est cachée en Christ, dans cette grande humilité. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, la conclusion, si je reviens à mon titre, la vie du chrétien, vie de miracle ou vie ordinaire? Ben, humainement, en fait, notre vie, elle peut sembler complètement ordinaire. Mais il y a eu un miracle en nous, une étincelle. C'est que Jésus-Christ est venu habiter dans notre vie. Jésus-Christ est venu habiter en nous. Et c'est ça le miracle. Il peut découler des guérisons. Il peut découler des miracles. Il peut découler de cela des choses qui paraissent grandioses aux yeux des hommes. Mais il peut aussi découler des choses qui paraissent des échecs aux yeux des hommes. Les lunettes des hommes sont les mauvaises lunettes. Quand on a les lunettes des hommes, on ne voit pas ce que Dieu voit. Dieu, lui, veut qu'on regarde selon ses yeux. Et c'est ce qui doit être notre priorité. Revêtons les lunettes de Dieu. Revêtons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter là et que le Seigneur vous bénisse. Et soyons des auditeurs qui ne sont pas oublieux. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ne nous bornons pas à l'écouter. Revêtons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et marchons de l'avant avec humilité. Servons Dieu humblement, marchons humblement avec notre Dieu. Amen.